Parce que Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Amen. Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Amen. Et pour la victoire, on a besoin de la foi pour manifester la victoire. Donc le pasteur Gaël n'est pas venu seul, il est accompagné de l'évangéliste Chancel.
L'évangéliste Christ.
Alors le pasteur Gaël.
Pasteur Gaël.
Il nous vient d'Orléans.
He's coming from Orléans.
C'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup.
He's the man of God that I love.
Vous allez finir par me dire que j'apprécie tout le monde. C'est vrai que j'apprécie tout le monde. Mais lui, je l'apprécie d'autant plus par rapport à son ministère.
Because of his ministry.
Vous savez, de nos jours,
nowadays,
c'est très facile
easy
de venir en France annoncer l'évangile. C'est très facile d'aller en Afrique, dans certaines régions, pour parler de Jésus. Alléluia. Mais c'est très difficile de trouver des candidats pour aller dans certains zones du monde pour annoncer Jésus. Et lui, je l'apprécie d'autant plus parce qu'il annonce Jésus dans une région, dans un pays où les choses ne sont pas toujours faciles. Et par rapport à cela, je m'incline devant le Seigneur pour la grâce qu'il lui a accordée. Amen. Donc le pasteur Gaël est le président de la maison chrétienne Espérance de la gloire. Amen. Il a reçu de Dieu le fardeau d'aller vers les chrétiens rétrogrades et les personnes désespérées avec le message de restauration et d'espoir. Il est conférencier et enseignant à son actif. Il a deux livres qu'il a écrits. Le premier, ça s'intitule De l'alliance à l'intimité. Et le second, c'est Grain de s'élever, 31 jours de méditation et de la réflexion biblique. Grain de s'élever, 31 jours de méditation et de réflexion biblique. Pour certains, on l'a déjà écouté. Pour d'autres, ça va certainement être une première fois. Mais en tout cas, soyez bénis, soyez disposés. Pasteur Gaël.
Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Et lui dire, tu es au bon endroit cet après-midi. Tu peux saluer ton voisin, ta voisine, dis-lui que tu es au bon endroit. Et que le Seigneur a une parole pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie le Seigneur encore pour la confiance que l'on m'accorde de pouvoir apporter cette parole de Dieu. Combien importante pour le peuple de Dieu. Et je sais également que c'est une très grande responsabilité de parler de la part du Seigneur. Que j'ai toujours dans mon esprit qu'un jour, nous nous tiendrons devant le Seigneur. Et à ce moment-là, il me demandera, mais qu'est-ce que tu as dit de ma part? C'est pourquoi chaque fois que je prêche, je sais, frères et sœurs, que c'est une très grande responsabilité. Que le Saint-Esprit puisse lui-même parler à son peuple à travers l'instrument humain que nous sommes. Alléluia. Alors nous nous disposons pour recevoir dans sa parole. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter.
peux pas être privé de ta grâce, Jésus. Les médicaments qui vous ont été prescrits, vous n'en connaissez pas les composantes chimiques. Mais regardez comment nous faisons confiance à l'ordonnance. Cette confiance nous amène à aller acheter le produit qui a été prescrit. Cette confiance nous amène à prendre ce produit sans même savoir de quoi il est fait. C'est-à-dire que quand nous prenons les produits qui nous ont été prescrits, nous pouvons aussi mourir en prenant ces produits-là. Les produits qui nous sont prescrits peuvent être aussi des poisons ou à l'instant vous allez mourir. Mais remarquez comment nous prenons ces choses naturellement. On ne se pose pas la question, mais de quoi est constitué ce médicament. Je vous prends un autre exemple. Quand vous allez voyager, comme vous voyagez, vous ne vous posez pas la question, est-ce que le pilote de l'avion que je vais emprunter, est-ce qu'il est dans un bon état? Est-ce qu'il n'a pas de problème avec sa femme à la maison? Est-ce que c'est sûr qu'on va atterrir? Remarquez avec l'assurance que nous allons à l'aéroport. Nous appelons notre correspondant pour dire, bon là, je suis à l'aéroport. Je vais prendre l'avion, j'arrive dans telle heure. On a une telle assurance qu'on va arriver à destination sans se dire peut-être qu'il y aura un accident. Nous le pensons
accident. Nous sommes sûrs et rassurés qu'on arrivera à bon port. Cette confiance-là, cette assurance, qui nous l'a donnée? C'est universel, c'est quelque chose que Dieu a planté dans le cœur de tout être humain. Mais cette foi que j'appelle la foi naturelle, c'est une foi qui ne nous permettra pas d'être sauvés, malheureusement. C'est une foi qui ne nous permettra pas d'être en contact avec Dieu. Mais c'est une mesure. C'est une mesure que Dieu a donnée à chaque être humain. Mais non, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui est bien avec la foi, c'est que la foi vient de Dieu. Dieu est l'auteur, celui qui donne naissance à la foi. Ici, je parle de la foi de Dieu. Dans Romains 10, au verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend? Vient de la parole de Dieu. Et pour les lecteurs de la Bible, on va dans Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk, c'est un prophète, chapitre 2, verset 4. Il est dit que le juste vivra par la foi. Mais entre-temps, Romain dit, la foi vient de la parole. Et donc, avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais nous faire réaliser une chose. Notre Dieu ne peut pas demander à des hommes et à des femmes de marcher avec lui ou bien de lui faire confiance si au préalable il ne se révèle pas. La révélation de Dieu précède la foi. Dieu se révèle d'abord et c'est cette révélation qui donne naissance à la foi en Dieu. Si Dieu ne se révèle pas, il n'y aura pas la foi en Dieu et la foi de Dieu. Et je prends l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui sont nés après Joseph en Égypte ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham. Les enfants d'Israël qui sont nés en Égypte n'avaient pas expérimenté le Dieu de Joseph. Le Dieu de Joseph n'était qu'une histoire. Le Dieu des ancêtres. Mais eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était la servitude. C'était la misère. Et Dieu, dans son plan, il savait que ce peuple allait marcher avec lui dans le désert. C'est pourquoi il va permettre par Moïse qu'il y ait les 10 plaies. Parce que déjà, à partir des 10 plaies, Dieu permet ses actes de surnaturel parce qu'il fallait que la foi en Dieu puisse naître dans le cœur de ce peuple. Parce que je le répète, vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. La confiance, ça se mérite. Non, on ne peut pas dire que je fais confiance à Dieu comme ça, ce n'est pas du discours. Pour que tu arrives à lui faire confiance, il faut que ce Dieu-là te rassure qu'il est. Parce que s'il n'arrive pas à te rassurer qu'il est, tu ne pourras pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce que tu seras toujours dans des doutes et dans des incertitudes. Alors Dieu va se révéler à Israël pour que Israël marcher avec lui. Les 10 plaies. La mer rouge.
The Red Sea.
Colonne de feu. Colonne de nuée. Des actes surnaturels.
Natural actions.
Pour que la foi naisse. Là, je suis en train de vous faire un peu l'historique, la naissance de la foi. La foi naît par la révélation. Si Dieu ne se révèle pas, il n'y aura pas de foi. Or, la révélation est une initiative divine. C'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est Dieu qui montre un aspect de sa personne divine. C'est Dieu qui révèle à travers le surnaturel qui il
est. Parce que tant que nous ne comprendrons pas, et ça va être le cœur de mon message, qui il est, il n'y aura pas une foi triomphante stable. Parce que la foi se repose toujours sur un fondement. Et le fondement de la foi, c'est Dieu lui-même. Et si ce Dieu-là qui est le fondement de la foi, vous ne savez pas qui il est, vous n'irez pas loin avec lui. C'est pourquoi il y a la foi naturelle d'une part, ce que Dieu a donné à tout le monde, même les incroyants, ils ont cette assurance, cette confiance dans certaines situations de la vie où ils savent que ça va se faire. Et puis il y a la naissance de la foi, que moi j'appelle la foi initiale. C'est cette foi-là qui va naître où? En Égypte. C'est quand on est un croyant, Dieu se révèle à nous, la foi en Dieu naît, c'est la foi qui nous permet de saisir la grâce de Dieu. C'est la foi qui nous permet de saisir le salut. C'est la foi qui nous permet d'être sûr que Dieu existe, que Dieu est une réalité. C'est pas la foi où on se dit non, Dieu n'existe pas. Non, non. C'est la foi initiale, c'est la foi que Dieu permet que tu puisses avoir, merci, que tu puisses avoir pour pouvoir saisir la grâce. Nous sommes sauvés par la foi, mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Donc, la foi initiale, c'est quand nous sommes dans le monde, sans Dieu, et quand Dieu vient se révéler à nous, et dans cette révélation-là, nous arrivons à une évidence, à une certitude que Dieu est. C'est ça la révélation de « Je suis ». Nous arrivons à l'évidence que Dieu est, c'est-à-dire que Dieu est une réalité. Dieu existe, Dieu il est vivant, Dieu est réel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un acte surnaturel, il y a eu une visitation divine. Mais la foi initiale qui naît en Égypte, elle n'est pas encore suffisamment forte pour nous faire entrer dans la victoire. Puisque nous sommes en train de parler de la foi triomphante, la foi initiale n'est pas encore une foi triomphante. Mais c'est la foi du salut. C'est la foi qui nous permet de saisir la grâce de Dieu, comme je l'ai dit. Mais elle n'est pas encore la foi triomphante. Maintenant, les enfants d'Israël, la foi initiale est née en Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, la génération là, qui n'a pas connu Joseph, à cause des 10 plaies, les enfants d'Israël ont su, à cause des 10 plaies, que le Dieu de Moïse était une réalité. C'est-à-dire que l'histoire du Dieu de Joseph, ils sont passés de la théorie à la réalité. Dieu était une réalité et il l'a démontré. Il l'a prouvé. Donc ça fait naître la foi qui leur a donné donc cette assurance de pouvoir aller encore plus loin avec Dieu. Mais cette foi initiale dans le plan de Dieu devait passer par le désert. Et les déserts que Dieu va permettre dans vos vies, c'est pour affermir la foi initiale. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait en sorte qu'après avoir cru, vous passez par le désert, c'est parce que le désert doit être le moyen de vérifier si vous avez compris la révélation de Je suis. Lorsque la foi initiale est née, en d'autres termes, Dieu permet le désert pour que vous puissiez vous évaluer d'abord vous-même dans la compréhension de qui est Dieu. Donc, les déserts arrivent. Entre-temps, le désert ne peut pas précéder la foi. La foi naît d'abord et ensuite il y a le désert. La foi que tu reçois par la révélation de Dieu, tu te retrouves dans le désert. Dans le désert, tout va de travers. Apparemment, ça va dans tous les sens. Seigneur te regarde. Il dit, bon, je veux voir.
And God is saying,
est-ce qu'il ou elle a compris qui je suis? Si la première révélation que je lui ai accordée, elle a compris que je suis fort, puissant, redoutable, quelle sera son attitude dans cette situation? Elle va paniquer et se comporter comme un sans-Dieu. Ou bien, elle va me regarder. C'est là où la foi est éprouvée. La foi initiale est éprouvée parce que le but du désert, c'est d'affermir la foi. Tant que nous ne comprenons pas le but des déserts, nous serons les chrétiens avec une foi initiale, mais toujours dans la défaite. C'est-à-dire des chrétiens qui croient que Dieu existe, mais ça s'arrête là. L'honneur que nous aurons serait justement de se dire, je ne suis pas un athée, je crois que Dieu existe, c'est tout. Jésus est mort pour mes péchés. Mais la vie chrétienne là, de la nouvelle naissance, nous devons marcher avec Dieu. Tu nais de nouveau. Ça, c'est avec la foi initiale. Mais après, il faut marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu implique inévitablement que cette foi initiale passe par le désert pour être éprouvée. Et c'est dans le désert que la foi initiale va muter, elle va se transformer, si on peut le dire ainsi, dans une foi ferme. La fermeté de la foi naîtra du désert. Votre foi ne pourra pas être ferme en dehors du désert. Israël devait passer par le désert pour que sa foi s'affermisse. Dieu savait que ce peuple-là, avec la foi initiale, n'allait pas tenir à Canaan. Pour pouvoir conquérir et posséder avec la foi triomphante, il faut que la foi initiale passe par le désert. Et Dieu savait que si Israël ne passe pas par le désert, arrivé à Canaan, ils ne tiendront pas. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, nous l'expérimentons. Il y a des personnes qui croient en Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu face aux difficultés de la vie, qui se comportent comme des incroyants. Donc c'est la même chose. Nous croyons que Dieu existe. Mais à certaines personnes dans notre vie ou dans notre comportement, dans nos attitudes, c'est comme si Dieu n'existait pas. Donc Israël avait cru la preuve. Regardez. Et ça, j'aimerais vous le dire, c'est très important. C'est une réflexion que j'ai eue personnellement et ça nécessite vraiment que nous réfléchissons là-dessus. Vous vous rendez compte que malgré le surnaturel que Israël a vu en Égypte, ils ont vu les 10 plaies. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on leur a raconté, ils ont vu. Ils ont vu comment la mer Rouge s'est ouverte en deux. Je dis bien, ils ont vu. Ils ont vu comment une colonne de nuée les accompagnait la journée, une colonne de feu la nuit. Ils ont vu. Tout ce que je suis en train de dire, ce sont des actes qui sont surnaturels. Ce n'est pas normal. Mais malgré tous ces actes surnaturels, ça n'a pas empêché Israël d'être rebelle à Dieu, d'être têtu, de se plaindre tout le temps, de se comporter comme si Dieu n'était pas avec eux. Comment vous pouvez expliquer que malgré le surnaturel, la confiance et l'attachement à Dieu n'étaient pas là? Ça veut donc dire que Dieu peut se manifester dans du surnaturel dans nos vies, mais cette manifestation du surnaturel là, ça peut être pour certains un feu de paille. Parce que ces gens là, ils ont vu. Mais comment se fait-il que ce qu'ils ont vu ne les a pas rapprochés de Dieu? Comment se fait-il que tous les miracles qu'ils ont expérimentés ne les a pas amenés à craindre Dieu davantage? Comment vous pouvez expliquer ça? Vous voyez le cœur de l'homme, comment il est. Nous avons la mémoire souvent très courte. Nous oublions vite. Il n'y a rien de plus offensant pour Dieu, justement, quand nous oublions ce qu'il a fait.
Dieu a déjà fait dans ta vie. Nous devenons amnésiques quand nous sommes dans des nouveaux défis. Les nouveaux défis de vos vies vous rendent amnésiques au point où vous oubliez que hier, c'est vous qui avez témoigné ici que Dieu a le fait. Mais si Dieu a fait hier, vous pensez qu'il peut le faire aujourd'hui? Mais il ne change pas. La vie de quelqu'un, il y a plein d'ombres de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mais comment ce Dieu qui ne change pas, à cause des défis d'aujourd'hui, vous oubliez que hier il a agi? C'est ça le cœur de l'homme. Nous sommes souvent amnésiques. Or, le but, c'est de maintenir. Jésus a dit dans Luc 18, au verset 8, il s'est préoccupé d'une chose importante, encore une fois, c'est la foi. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Donc, le sujet de la foi, il est fondamental parce qu'il est vital. Donc, dans le progrès de la foi naturelle, la foi initiale, et nous avons la foi ferme. Et maintenant, la foi ferme, lorsque la foi a été affermie par le désert, lorsque à travers le désert, vous avez compris qui il était, qui il était, comme Josué,
as Joshua,
comme Caleb,
as Caleb,
Josué et
Caleb,
avaient compris qui était le Dieu de Moïse.
God, the God of Moses.
Voilà que ces hommes qui sont passés par le désert se retrouvent à Canaan face aux Anakim, c'est-à-dire ces géants qui étaient là. Ils étaient tous sortis d'Égypte. Ils ont tous vécu le surnaturel de Dieu. Mais de toute cette génération qui est sortie d'Égypte, apparemment, il n'y en avait que deux qui avaient compris qui était Dieu. Alors, ils sont tous retrouvés en Égypte, plutôt du côté de Canaan. Josué et Caleb, ils ont vu les Anakim, mais ils sont restés sereins. Mais tout le reste, les 10 autres ont dit, on est comme des sauterelles à leurs yeux. On va mourir. Oh. Frères et sœurs, Dieu ne se trompe jamais dans ce qu'il dit. Parce que, et là j'aimerais encore ouvrir une parenthèse, frères et sœurs, quand vous priez face à des situations de votre vie, vous n'informez pas Dieu. La prière n'est pas un bulletin d'information. C'est pas au moment où tu commences à prier que Dieu prend connaissance de ta situation et de ton problème. Donc Dieu savait très bien qu'à Canaan, il y avait les Anakim, il y avait ces géants-là. Lorsqu'il dit qu'il faut aller visiter le pays, il le savait. Donc Dieu n'est pas un suicidaire. Il n'y a pas des gens à la boucherie comme ça. C'est un bon père. Mais un bon père qui doit nous éduquer, qui doit forger notre caractère, parce que nous devons aller plus loin avec le Seigneur. Et comme Josué et Caleb avaient compris, ils avaient compris qui était Dieu. Il dit, Dieu a dit qu'il nous donne le pays. Dieu a dit que nous le posséderons. Nous le posséderons. La Bible dit résister au diable avec une foi ferme. On n'a pas dit résister au diable tout simplement avec la foi. La Bible précise résister au diable avec une foi ferme. Or, la foi ferme est une foi qui a été éprouvée par les déserts de la vie. Et dans les différents déserts, Dieu s'est révélé à toi. Tu as vu dans la détresse comment Dieu a intervenu. Tu as vu dans des cas de maladie comment Dieu a guéri. Tu as vu dans des cas où les portes étaient fermées comment Dieu a ouvert les portes. Donc tu as été témoin des interventions de Dieu. Et donc tu es confiant par rapport à l'avenir. Et celui qui est prouvé par le Seigneur et qui a compris cette école du désert avec Dieu, il ne peut pas se comporter comme un homme ordinaire. Normalement, pour avoir une foi triomphante, c'est vraiment développer l'état d'esprit de Josué et Caleb. Parce que leur regard était toujours tourné vers Dieu. Et quand on aborde le sujet de la foi, j'aime bien faire allusion à ce missionnaire anglais, Hudson Taylor. Parce que les jeunes missionnaires qui étaient venus en Chine, dans le cadre de la mission, ils sont allés voir Hudson Taylor, ils étaient tellement fascinés par la foi de cet homme. Parce qu'il a porté le réveil à l'intérieur de la Chine. Alors c'est cette équipe de jeunes missionnaires, ils sont venus voir Hudson Taylor. Ils ont dit, waouh, tu as une grande foi, ta foi nous impressionne. Nous aimerions avoir une grande foi comme toi. Et j'apprécie la sagesse de cet homme qui a dit, mais en réalité, c'est pas que ma foi elle est grande, mais c'est que ma foi se repose sur un Dieu qui est grand. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est l'objet de votre foi. Si l'objet de votre foi est instable, votre foi sera instable. Si l'objet de votre foi est quelque chose de mou, ça, la foi sera molle. Mais si l'objet de votre foi est fort et dur, votre foi sera dure. C'est la question de l'objet de la foi. Or, nous parlons de Dieu comme étant celui qui suscite la foi et qui est lui-même l'objet de cette foi. Alors la question fondamentale est, qui est-il? C'est le fameux « je suis ». Qui est-il? Jésus a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Ils ont commencé à dire, certains disent que tu es Jérémie, Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes. Jésus leur a posé la question à ses apôtres. Mais vous là, c'est vrai, les gens ils ont dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? C'est une question fondamentale. J'imagine, parce que la Bible dit qu'il y a eu une vive discussion entre eux. Ils étaient apôtres. Ils marchaient avec lui. Mais Jésus leur pose la question. Qui suis-je? C'était pour qu'ils arrivent à trouver la réponse au « je suis qui il est ». Parce que lui dit « je suis ». Lui dit « je suis » pour que toi tu dises « tu es ». Mais tu ne peux pas dire tu es si lui ne dit pas je suis. Pour que tu dises que tu es, il faut que tu comprennes ce que je suis a dit de lui-même. Il leur dit, qui suis-je? Si je posais la question ici, qui il est? Qui est Dieu? Qui est Jésus? Pas comme dans certaines assemblées où on commence à déverser plein de choses. J'étais au mois de mai à juin en Afrique et j'abordais justement le sujet sur la révélation de Dieu. Je leur ai dit, dans certaines adorations, les gens disent à Dieu, Seigneur, tu es le Narcisse de Saron, le lit de la vallée. Moi, je leur ai posé la question. Vous savez ce que c'est Narcisse de Saron? Je leur ai dit, vous savez ce que c'est le lit de la vallée? Je leur ai dit ça. Parce que vous dites des choses que vous ne comprenez pas. Les gens à l'époque, là, quand ils disaient Narcisse de Saron, lit de vallée, ils savaient de quoi ils parlaient. Vous vous dites, tu es le Narcisse de Saron? Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qui est plus important pour Dieu? Que l'on soit des perroquets spirituels, qu'on adore par procuration, ou bien qu'on adore en fonction de la révélation que l'on a reçue de lui? Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Qu'on répète ce que Moïse a dit, qu'on répète ce que Salomon a dit, ou bien que tu dises à Dieu ce que toi tu as compris de lui? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'on déverse des paroles en parlant pas, ou bien dit Seigneur, tu es parce que tu as expérimenté quelque chose. Et quand tu dis que tu es, tu sais de quoi tu parles. C'est pas tu es de Salomon,
C'est pas tu es de David. C'est pas tu es le de Moïse. Tu es parce que toi-même tu sais dans quelle situation de ta vie tu t'es retrouvé, tu l'as invoqué et tu as vu la main de Dieu. Parce que notre Dieu est actuel. Il est actuel. Il est actuel. Il est actuel. C'est pas un Dieu du passé. C'est pas un Dieu de l'histoire. Il fait encore l'histoire aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit je m'appelle je suis. Pas j'étais. Pas je serai. Il s'appelle je suis. L'éternellement présent.
Et nous devons savoir qui il est. C'est pourquoi je terminerai par les trois racines fondamentales de la foi triomphante, parce que cette foi triomphante qui est cette foi ferme, c'est une foi ferme, mais c'est une foi ferme qui a des racines, trois racines principales. Et lorsque vous comprenez ces trois racines là, je vous assure qu'on ne pourra pas vous ébranler n'importe comment, hein. Nous allons découvrir cela dans le psaume 139. J'aime bien ce psaume là. Il nous encourage. Parce que celui qui est né de Dieu, vous l'avez déjà vu, justement, on dit triomphe. Celui qui est né de Dieu. Or, vous ne pouvez pas naître de Dieu sans que Dieu se soit révélé à vous. On ne naît pas de nouveau par hasard. La nouvelle naissance n'est pas un accident. Il y a certaines naissances humaines dans la chair qui sont des accidents, comme on le dit. Mais la nouvelle naissance, j'aimerais le dire de façon solennelle, n'est pas un accident. Parce que la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir ou le privilège de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté, je dis bien, de la volonté de Dieu. C'est une volonté divine. Si tu nais de nouveau, ce n'est pas un hasard. C'est une volonté divine. Pas un accident, hein. Si tu es né de nouveau ce soir, alors tu aimerais dire à ton voisin, tu n'es pas un accident. Ah oui, il faut le dire, hein. Tu n'es pas un accident. Psaume 139. Voilà qu'on va terminer avec les trois racines de la foi triomphante. Vraiment, lisez ce psaume avec moi avec beaucoup de passion et beaucoup d'émerveillement, parce que notre Dieu, il est admirable. Alors s'il est admirable, il est digne d'être admiré, contemplé. Parce que les choses que David dit ici, frères et sœurs, elles sont fortes. Faut pas lire ça seulement comme ça. La Bible, c'est pas un roman. C'est pas un roman. Ce sont les paroles de Dieu. Des hommes qui ont expérimenté qui était Dieu. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Oh, où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, vous, on est content. La nuit brille comme le jour pour lui, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret.
qui sait dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Frères et sœurs, c'est fort ce que David est en train de dire. David ne dit pas des choses parce qu'il faut juste parler pour parler. Il parlait vraiment avec beaucoup de sérieux. Parce que Dieu...
For God.
Vous savez, s'approcher même de Dieu, c'est un privilège. Grâce à notre Seigneur Jésus, nous avons accès à la salle du trône. Donc la grâce de Dieu est là. Donc, s'approcher de Dieu, communiquer avec Dieu, c'est une grâce.
It's a grace.
Et donc, on ne vient pas pour raconter n'importe quoi. Maintenant, à travers ce qu'on vient de lire, il y a trois vérités importantes que le psalmiste nous fait ressortir sur Dieu. Et ces trois vérités importantes, nous les connaissons, mais elles sont contenues dans ce psaume-là. À travers ce psaume, David prend conscience de l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout. Quel que soit ce qu'il pouvait faire, il dit, tu es là. Je ne peux pas me cacher de toi parce que tu es là. Donc, la première racine, pour que votre foi soit triomphante et qu'elle demeure une foi triomphante, c'est que cette foi-là doit vraiment être fondée, bâtie sur l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. C'est-à-dire que la vérité sur l'omniprésence de Dieu, vous devez l'intégrer convenablement. Comme le médicament que le médecin vous donne, vous devez intégrer cela. Dieu est omniprésent. Et l'omniprésence parle de l'être de Dieu. Il est. Ça nous parle du je suis. Parce que quand Dieu est omniprésent, il vient vers les hommes pour dire que je suis. Dans la détresse, je suis. Dans la maladie, je suis là. Dans tes problèmes, je suis là. Ça nous révèle encore le je suis. Il est.
The I am of God.
Parce que certaines personnes, selon les situations de leur vie, elles ont l'impression que Dieu n'est plus là.
Think that God is not more there.
Dieu m'a abandonné.
God forsake me.
Je ne ressens plus la présence de Dieu.
Not more feeling the presence.
Frères et sœurs,
brother and sister,
la présence de Dieu, ce n'est pas une question de ressenti, ce n'est pas un truc émotionnel. C'est une question de foi.
A question of faith.
Que tu ressentes dans ton corps ou pas, ça ne détermine pas si Dieu est là ou pas. C'est pas ton ressenti, ce sont pas tes émotions qui déterminent la présence de Dieu. Dieu est présent en nous par son esprit. Et nous saisissons cela par la foi. Je ne sais pas que Dieu est là parce que je sens quelque chose. Je sais que Dieu est là parce qu'il a dit qu'il est là. Et ma foi est dans ce qu'il a dit, donc dans sa parole. Si Dieu dit qu'il est là, c'est qu'il est là. Que mon corps le sente, le ressent ou pas, parce qu'il l'a dit, c'est qu'il est là. C'est tout. Omniprésence. Dieu est présent
partout.
Vous voyez toute la différence, même avec tout ce qui est du charlatanisme et tout ça là. Tu peux avoir une bague, un collier. Vous savez, ces choses-là, on peut les perdre. Hein. Mais un Dieu qui est présent partout, on ne peut pas le perdre. Quelqu'un peut oublier, son talisman. Quelqu'un peut oublier sa petite feuille où il y avait des invocations dessus. Il peut oublier. Tu peux perdre ça.
You can lose it.
Regardez l'histoire de Laban. Rachel a volé les dieux de la famille. Les dieux n'étaient plus là. Les idoles là, les statues, on peut perdre. Mais le Dieu que toi tu pries là, le Dieu de la Bible, tu ne peux pas le perdre parce qu'il est présent partout. On ne peut pas te voler Dieu. On ne peut pas te voler Dieu parce que Dieu est esprit. On ne peut pas voler un esprit, on va le voler comment? Dieu est. On ne peut pas voler ton Dieu, on va te le voler comment? Deuxième racine.
The second root.
À travers le psaume de David. Il nous révèle que Dieu sait tout.
God knows
l'omniscience de Dieu.
God knows
Dieu
everything.
Sait God tout.
Knows everything.
Une foi qui est fondée sur cette révélation-là. Dieu est, c'est l'omniprésence. Maintenant là, on nous dit de Dieu sait. Il a toute la connaissance. Il
n'y
a rien qui lui échappe. Il n'y a pas une chose à laquelle il est ignorant. Il connaît tout. Avec une telle foi, quand tu t'approches de Dieu même dans la prière, tu ne t'approches pas dans l'esprit d'informer Dieu. Tu viens tout simplement rappeler à Dieu ce qu'il connaît déjà.
Only to remind him what he
Dieu
already knows.
Tout.
God knows everything.
Si tu es son enfant et qu'il y a certaines situations de détresse dans laquelle tu te trouves, ne pense pas que Dieu ne sache pas que tu es dans cette situation. Il le sait.
That situation, he knows.
Dieu sait tout.
God knows everything.
Non, la première chose, il te dit que je suis.
The first thing he said.
Ici, il te dit que je sais.
And here, he tells that
je
I
sais
know.
Toutes choses.
I know.
Le Dieu je suis te dit que je sais.
The God I am tell you that I know.
J'ai toute la connaissance.
I have all the knowledge.
Toute la connaissance.
All the knowledge.
Il n'est pas limité.
God is not limited.
Par l'astrologie.
By the astrology.
Par la voyance.
By
cartomancie. Il a tout. Toute la somme de la connaissance
God
est en lui.
All the knowledge are into his hands.
Et c'est ce Dieu-là qui est l'objet de ta foi.
The subject of your faith.
Le Dieu qui sait tout.
The God who knows everything.
Donc on ne peut pas le doubler.
Not, deceive him.
On ne peut pas le tromper.
Not deceive him.
Parce qu'il sait tout.
Because he knows everything.
Et ça,
and this
ça doit rassurer. Hein?
Must make you
mais si je sais que mon Dieu est tout, pourquoi je vais m'inquiéter? Seigneur, ne vois-tu pas que je souffre? Bien sûr qu'il voit. Il est Dieu. Il faut que notre mentalité change. Nous, quand nous prions, je le répète, quand vous priez, vous n'informez pas Dieu de votre situation. La prière ne fait que rappeler à Dieu ce qu'il connaît déjà. Mais comme Dieu veut communiquer avec l'homme, il a besoin que tu lui parles. C'est pourquoi il te dit prie. Mais quand il te dit de prier là, en vérité, il sait déjà. Il y a une parole des Écritures qui dit ceci. Avant même que tu l'aies invoqué, il t'avait déjà entendu. Avant même que tu aies arrêté ta prière, il t'avait déjà exaucé. Donc en réalité, frères et sœurs, que tu pries, que tu ne pries pas Dieu dans sa souveraineté, il est capable d'agir même si tu pries ou tu ne pries pas. Mais il faut que tu pries quand même. Même si il sait qu'il va faire, mais il faut que tu pries quand même. Pourquoi? Parce qu'il sait. Le Dieu qui sait tout. Troisième racine.
And the third fruit.
Nous terminons.
End by it.
Parce que dans le Dieu qui sait tout là, le passé. Prenez compte, le passé, le présent, le futur.
We are in the past,
et votre éternité là, il
and
connaît.
Eternity, he knows.
Le passé.
The past.
Présent.
The present.
Le futur.
The future.
L'éternité.
Eternity,
il connaît.
He knows.
Donc, il n'y a rien qui l'étonne. Un Dieu qui sait tout là, rien ne l'étonne. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ta vie et dans le monde, il n'y a rien qui l'étonne. Rien n'étonne Dieu. Dieu n'est surpris par rien. Parce qu'il connaît tout. C'est pourquoi la troisième racine nous parle de ce que Dieu fait. Dieu fait. Dieu est capable. L'omnipotence. L'omnipotence, c'est sa capacité à tout faire. Il dit, je suis, je sais et je fais tout. En d'autres termes, je suis capable de tout, j'ai tout le pouvoir, j'ai toute la puissance. Toute la puissance est en Dieu. Même le diable. Vous ne vous êtes pas posé la question, qui a donné la puissance à Lucifer?
Who has given the power to Lucifer?
C'est vraiment pour stimuler votre assurance en Dieu. Hein. Qui a donné à Lucifer la force qu'il a?
Has given the power.
Nous regardons pour certaines personnes qui regardent sur Internet les magiciens avec tout ce qu'ils font là. On est émerveillé, on se dit waouh. On regarde Chris Angel, on regarde les Dynamo et compagnie, on voit tout ce qu'ils font, on se dit waouh. Qui a donné à Lucifer la puissance qu'il a?
C'est qui?
Hein? Mais vous répondez avec timidité comme ça là. Il y a combien de créateurs? Un seul. Lucifer est une créature, oui ou non? Qui lui a donné sa capacité d'être et de faire? C'est Dieu. Donc la puissance que Satan a lui a été donnée par Dieu. Maintenant on dit que ce Dieu là, il a toute la puissance. Et avec ça, on va avoir peur du diable? On va avoir peur des démons? Non. Jésus n'a-t-il pas dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre? Tout pouvoir. Le Jésus qui vit en toi, c'est lui qui détient tout pouvoir. C'est pourquoi il dit, mais non, moi je vous donne l'autorité. Je vous donne l'autorité. Je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est ça la patrie en compte. C'est une foi qui arrive sur ça. Triomphante, elle est assise sur ces vérités-là. Tu sais que rien ne pourra te nuire parce que Christ qui vient en toi t'a donné le pouvoir, l'autorité. Et parce qu'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Il ne peut pas vous dire que je vous ai donné le pouvoir et puis c'est un mensonge. Le Seigneur, il ne nous trompe pas. S'il a dit, je vous ai donné. La Bible ne dit pas que je vous donnerai. Il dit, je vous ai donné. C'est déjà un acquis. Ce n'est pas une promesse. Il dit, je vous ai donné. La foi triomphante, elle est assise sur ces vérités. Je sais que j'ai reçu cela de Dieu. Et que ce que Dieu a dit ne ment pas. Il ne trompe pas. Parce que Dieu l'a dit, il le fera. Je suis. Je sais. Je fais. Et ma foi est assise sur la révélation du Dieu qui est, du Dieu qui sait, du Dieu qui fait toutes choses. Et à cause de ça, je ne me laisse pas ébranler par n'importe quoi. Le diable peut venir avec le mensonge, mais moi j'ai la vérité. Face au mensonge, vous avez la vérité. Tu viens avec le mensonge pour te dire que tu es incapable, tu dis que c'est un mensonge parce que je puis tout par un Christ qui me fortifie. Ma capacité vient de Dieu. Quand tu viens avec le mensonge pour te dire que Dieu t'a oublié, tu dis c'est faux.
car c'est l'Éternel qui connaît toutes choses. Il connaît quand je me lève, quand je me couche, quand je dors. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes.
Dieu ne m'a pas abandonné. Est-ce que Dieu peut faire ça là? Tu penses que ton Dieu peut faire? Mais il peut tout faire, mon Dieu. Parce que la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Et qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Quand votre foi, la foi initiale, qui a traversé le désert, elle s'y a fermée. Maintenant, vous allez devoir conquérir. La conquête a besoin de la foi qui a été éprouvée. Mais dans la conquête, vous ne devrez pas oublier la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Josué et Caleb, ils se sont souvenus. Dieu a dit à Moïse, je vous donne le pays. Et donc ils ont dit au peuple, c'est vrai qu'il y a les fils d'Anakim, mais Dieu a dit que je vous donne. Et comme Dieu a dit qu'il nous donne, c'est qu'il nous a déjà donné. Alors, on regarde les Anakim. Ou on regarde à celui qui a fait la promesse. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Si Dieu dit qu'il a donné, c'est qu'il a donné. Le problème de la vie chrétienne, ce n'est qu'une question de temps. Le problème de notre foi, c'est qu'à cause du temps, notre foi, elle vacille, elle va à droite, elle va à gauche, à cause du temps. Mais le temps n'est pas un problème pour Dieu. C'est à cause du temps. On se dit, mais ah là, ça a mis du temps. Est-ce que Dieu peut faire encore? Mais est-ce que c'est le temps qui perturbe votre foi? Mais j'aimerais vous dire, ne regardez pas au temps. Parce que lui, il est maître des temps et des circonstances. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de méditer là-dessus. Hein? On dit, il est maître des temps. Maître des circonstances. Maître des temps. Maître des circonstances. Quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, il est maître. Et celui qui est maître des temps et des circonstances, c'est le Dieu en qui tu as foi. C'est le Dieu qui habite en toi par le Saint-Esprit. Comment ne pas être rassuré? Comment ne pas être rassuré? Alors on va se mettre debout, on va prier ce soir. La foi triomphante, elle est assise sur Dieu lui-même. Elle est assise sur les promesses. Elle triomphe parce qu'elle sait que Dieu est. Elle triomphe parce qu'elle sait que Dieu est capable. Elle triomphe parce qu'elle sait que Dieu peut tout. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Alors que Dieu a permis encore cette fois. S'il y a des personnes ici qui traversent des déserts dans leur vie, des déserts dans votre couple, des déserts par rapport à votre santé, j'aimerais vous dire que le Seigneur permet certaines situations parce qu'il veut affermir votre foi, afin que votre vision de qui il est soit claire, pour que votre foi se repose tranquillement sur ce Dieu là qui est. Elle a besoin, ta foi, de se reposer, mais pas sur du sable mouvant, pas sur une révélation incertaine, pas sur une image floue de Dieu, pas sur une image abstraite de Dieu, mais sur la réalité même de qui il est. Il permet cela pour que tu saisisses la réalité du je suis, la réalité qu'il est le Dieu qui se suffit à lui-même. Et tu sortiras de là plus fort que jamais. Ne maudissons pas les épreuves de nos vies, mais voyons par là les opportunités de Dieu pour nous faire avancer. Tu vas prier pour toi, mais pour le Seigneur. Peut-être que je n'avais pas la bonne attitude. Peut-être que je te regardais autrement. Mais ce soir, tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as montré encore qui tu étais. Alors je peux avec assurance me reposer sur toi. Je peux avec assurance me reposer sur toi. Me reposer sur un Dieu qui est omniprésent. Me reposer sur un Dieu qui est omniscient.
me reposer sur un Dieu qui est omnipotent. Et ces trois vérités te concernant, Seigneur, sont suffisantes pour me rassurer. Je ne sais pas, frères et sœurs, comment tu as entendu, comment tu as reçu ce message, mais ces trois vérités suffisent pour te rassurer, de déposer ta foi sur Dieu. Et quelles que soient les tempêtes, quels que soient les défis, quels que soient les challenges, tu dois toujours te reposer sur ce Dieu-là. Il est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui l'amène même à la perfection. Que Dieu nous aide. Tu as prié pour toi-même. Parce que Dieu veut que tu changes d'attitude. Dieu veut que tu changes d'attitude de la situation dans laquelle tu es. Si tu avais une attitude de détresse, si tu avais une attitude de panique, tu es souvent dans la panique. Lorsque les choses vont mal, lorsque tout se renverse dans ta vie, souvent tu paniques et tu perds ta paix. Le Seigneur a envoyé cette parole ce soir pour que tu gardes ta paix. Garde ta paix, dit le Seigneur. Garde ta paix. De la même manière qu'il a dit aux enfants d'Israël par Moïse, gardez silence, parce que c'est l'Éternel qui combattra pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur me dit de te dire, garde ta paix. Il a dit, ne promenez pas des regards inquiets. Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Alors j'aimerais le dire à quelqu'un ce soir, garde ta paix. La situation dans laquelle tu es ne te tuera pas. La situation dans laquelle tu es ne t'enterrera pas vivante. Le Dieu qui sait tout, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui est présent en toutes circonstances te dit que je suis avec toi. Garde ta paix. Garde ta paix. Ne laisse pas n'importe quoi troubler ton cœur. Garde ta paix. Garde ta paix. Car l'Éternel combattra pour toi. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit avant de nous évoluer, alors sur nous, il n'a pas dit.
Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit
alors
sur notre bord,
alors
sur notre bord.
J'aimerais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne sombreras pas. Élève ta voix, dis-le, tu ne sombreras pas. Tu ne sombreras pas. Tu ne sombreras pas. Tu ne sombreras pas. Alors j'aimerais que tu pries pour la personne qui est à côté de toi, pour cette semaine qui va commencer, pour que Dieu le fortifie encore. Tu vas prier pour lui. Alléluia. Seigneur, fortifie-nous. Que nous soyons encouragés davantage, nous te supplions au nom de Jésus. Nous avons des défis tous les jours. Nous avons des défis dans chaque domaine de notre vie. Mais je te prie, ce soir,